RMC.
PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC, Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh, nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, c'est l'After qui est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct, bien sûr, l'After pour analyser cette soirée de Ligue 1 où on s'est régalé, il y a eu plein de beaux matchs, mine de rien, du suspense, quelques décisions arbitrales, un peu de VAR, bref, la Ligue 1 quoi, dans l'After, l'émission qui dit tout, ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Jérôme Bretagne est resté, bien sûr. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Les résultats, les gars, je vous les donne rapidos. Ce soir, Strasbourg et le PSG font un partout, égalité. Rennes, tout à l'heure, a gagné à Lyon 2-0. Nantes bat Marseille 3-2. Bordeaux bat Saint-Etienne 3-2. Nîmes gagne encore à Caen 2-1. Toulouse gagne à Reims 1-0. Et Dijon bat Guingamp 2-1. 32-16, on vous attend sur Direct Studio, on vous attend sur le hashtag RMC Live, bien sûr. Et n'oubliez pas le grand jeu de Noël. Vous le savez, on a des tonnes de cadeaux pour vous, les télés, des Xbox, des PS4, qu'est-ce que j'ai encore, des téléphones portables, des voyages à gagner. C'est très simple pour le grand jeu de Noël, vous envoyez Noël, c'était quand même un des auditeurs totem de l'After, c'est un hommage. Vous envoyez Noël par SMS au 732-16, Noël par SMS au 732-16, tout de suite, bien sûr, vous avez une heure pour jouer. Allez-y. Dans le monde de la Ligue 1 comme dans le monde du football, l'essentiel c'est les 3 points, mais aussi dans l'After, c'est parti.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les 3 points.
Et souvent l'essentiel c'est le plus important.
Daniel, tes 3 points ce soir.
Bon, il y a tellement de choses que
ça va
un peu compliqué quand même. Un pari très moyen, mais qui peut se le permettre en attendant mardi prochain. En revanche, et c'est mon deuxième point, Paris, Marseille et Lyon, eux ne pouvaient pas se permettre ces défaites-là. Ça c'est certain. Et le troisième point, franchement, je vais donner la parole à Jérôme parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on va gagner du temps.
Mmh. Non, on compte avec 2 points, quoi, en fait.
Non, j'aurais pu mettre Marseille et Lyon séparés. Mmh. Mais je pense que Marseille et Lyon n'avaient pas le droit de faire les matchs qu'ils ont fournis ce soir. Tiens, je te ferai peut-être un troisième point sur Rennes. Comment Rennes, après ce qui s'est passé ces dernières semaines, peut aller à Lyon et gagner? Et comment on peut entendre Julien Stéphan, à la fin du match, dire on a eu une maîtrise quasi continue dans ce match? J'ai ma petite idée là-dessus, on en parlera après.
Lionel. Pardon. J'ai vécu des émotions moi ce soir.
Ouais. Alors moi t'as raison. Mon premier point c'est sur le match de ce soir. Moi je vais dans l'ensemble un match très moyen. Mon deuxième point c'est un petit coup de gueule sur ce que a mis en place, et je l'ai dit pendant le match, Thierry Loret. Beaucoup trop frileux à l'image de beaucoup d'équipes en Ligue 1 quand ils jouent le PSG. Et ça se voit par l'attitude des joueurs de Strasbourg à la fin du match. On se faisait la réflexion avec Daniel. Quand tu vois des mains se lever au ciel en guise de victoire alors qu'il y a que match nul et qu'ils ont fait un match de merde, eh ben excuse-moi, ça me dérange.
Esprit ligien te dira que pour eux c'est comme une victoire.
Exactement. Et mon troisième point, juste pour aller vite, je voulais mettre en avant, plutôt de parler, on a parlé avec Daniel dans ses points, Lyon et Marseille qui perdent, je voulais mettre en avant le travail quand même de Vaïdali Lodzic, parce que souvent je le taquine, souvent je le critique, mais je trouve que il apporte et il a progressé de ce côté-là. C'est dans la façon de jouer, toujours essayer de relancer, d'aller vers l'avant avec des bons joueurs au milieu de terrain. Franchement, cette équipe de Nantes elle me surprend.
Elle était séduisante ce soir. Ouais, dans tout ce qu'elle a proposé. Ouais.
On va en parler de Nantes tout à l'heure. Moi mes 3 points, mais moi j'ai retenu 3 points, 3 coachs. Loret aussi, parce qu'effectivement moi qui vois tous les matchs de Strasbourg, je pense que ce soir il s'est trompé. Ali Lodzic aussi. Et moi j'avais mis Stéphane. Alors j'ai pas entendu ses déclarations d'après match. Mais enfin quand t'arrives gagner ton premier match à Lyon, c'est quand même pas anodin, mine de rien, surtout quand t'as pris 4-1 il y a quelques jours à domicile. Bon, on va détailler tout ça bien sûr ensemble. Démarrons par ce Strasbourg-PSG. Un PSG qui arrive en faisant des choix. Thiago Silva sur le banc, Mbappé sur le banc, Di Maria pas là. Bon, Neymar
on n'oubliera pas de parler des autres matchs, parce que j'y pense, parce que c'est presque ce qui m'intéresse. Des autres matchs, et notamment de ça, de ce que tu
disais. Mais là, on démarre par celui-là, vu que c'est le dernier.
Certes, mais c'est pour prévenir, parce que c'est presque ce qui m'intéresse le plus. Aussi bien dans ce qui se passe à Nantes, dans ce qu'on a vu de ce que Rennes a proposé à Lyon, dans ce que Lyon a proposé. Je pense que ce qui se passe dans la tête d'une équipe, et comment on l'a fait évoluer et bouger, c'est en plus, je pense, une des grandes causes de notre football et de la Ligue 1. Donc voilà.
On aura aussi une heure demain pour le faire, puisque demain on pourra refaire la Ligue 1.
Mais revenons sur le match, oui.
Mais d'ailleurs, ce qui s'est passé dans la tête des joueurs, ça marche aussi sur PSG Strasbourg.
Exactement.
Paris arrive, on va dire, sûr de sa force, en se disant bon.
Non, je crois pas, non. Pas comme ça.
Alors, en tout cas, Strasbourg a fait un complexe d'infériorité clair et net ce soir.
Paris, je pense que suite à leur match contre Liverpool, en attendant Belgrade, qui est l'objectif, clairement sur les deux matchs là de championnat, je vais pas dire qu'il y a une impasse parce que on n'est pas en train de parler de ça, mais il y a clairement, d'abord, on met des équipes qui, très franchement, quand tu regardes sur le papier, bon, elles ressemblent. Je sais pas à quoi elles ressemblent en fait, les équipes. Je sais pas trop comment elles jouent, des mecs qui sont pas à leur poste. C'est du bricolage, genre allez-y, on va pas perdre. S'il y a match nul, on s'en fout. On a l'impression que les deux matchs ont été mis mais complètement de côté, quoi. La compo de ce soir, waouh, si quelqu'un peut la comprendre, je sais pas. C'est ce 3-4-1-2 bizarre. Quand tu vois au départ Diaby, Nsoki, alors ils ont fait des bons matchs par ailleurs, hein, y a pas de problème. Mais bon. Tu vois bien que c'était un peu le cadet des soucis de Tuchel et des joueurs, ce match-là. Après, bien, pas bien, ça, j'en sais rien. De toute façon, la première partie de saison du PSG, elle est validée mardi soir. Enfin, elle est validée ou non, mardi prochain. Tout sera vu, comme on avait dit avant Liverpool, sous les projecteurs de ce match-là et maintenant de celui de Belgrade. Ce match-là, pour le PSG, moi, je veux bien te dire que Verratti a fait une première période épouvantable et qu'il s'est un peu rattrapé sur la seconde. Exactement, c'est pas le seul. Bah moi, on peut bien parler du PSG, hein, mais j'ai très peu d'intérêt à en parler. Je te dis la vérité.
En fait, pour qu'il y ait un match, et moi je dis un match très moyen, parce que en effet Paris, dû à ses changements, dû aussi au fait que le match arrive à une semaine de Belgrade, tu vas pas jouer ce week-end, que l'entraîneur fait des changements qui sont assez logiques par rapport à l'état de forme de certains. Mbappé s'était
blessé.
Alors
attention, parce que il y a quand même le match de samedi qui est reporté. Ça aurait peut-être pu changer les plans, parce que la même histoire là.
Moi je pense que ça a pas changé les plans, parce que de toute façon, quand tu fais un match de cette intensité là, c'est pas un match qui va te servir pour Belgrade dans tous les cas. Donc qu'il amène des changements avec de la jeunesse, il l'a déjà fait.
Plus d'intensité à l'entraînement cette semaine.
Ben oui, c'est logique. Après, moi, pour faire un bon match, pour que Paris soit dans le dur, il y a le fait en première mi-temps que Strasbourg met de l'intensité dans les duels. Alors ça les a peut-être réveillés, et c'est pour ça que la deuxième mi-temps, ils sont bien meilleurs, le PSG. Mais après, il y a ce que propose Strasbourg et ce que propose son entraîneur avant le coup. Tu le disais, à travers les changements, il met des jeunes dans l'effectif, des jeunes très défensifs au détriment de joueurs offensifs. À l'arrivée, ça donne que dalle. C'est deux tirs cadrés, du moins deux tirs dans le match pour Strasbourg, un pénalty offert.
Un pauvre centre avec un pénalty qui tombe du ciel.
Exactement. Et une occasion en fin de match, là, sur le seul tir cadré de Strasbourg sur la deuxième mi-temps.
Non, mais un partout, Strasbourg s'en sort très bien.
Non, mais
c'est même pas s'en sortir, parce que très honnêtement, pour Strasbourg, perdre le match, le gagner, ok, ça fait prestige. Comme l'année dernière, où je trouve que l'impression qui avait été laissée était complètement différente.
Exactement. L'année dernière, tu avais joué.
Ouais. Là, que tu le perdes, que tu fasses ce match nul, pour Strasbourg, ils sont au milieu de tableau maintenant, ça va pas leur changer la vie. Il y a un truc, et là, on va pouvoir enchaîner avec les autres matchs. Je disais à Jérôme tout à l'heure, peut-être que je me trompe, hein, si certains pensent que je me trompe, ok, mais je sais pas, moi, si le 15e de Liga, de Serie A, de Bundesliga, s'il joue le Bayern, City, Real, Barça, et qu'il fait match nul comme ça, je sais pas si à la fin, il fait comme Jonas Martin, de lever les bras, de regarder ses potes et de s'enlacer. Je sais pas. Pour moi, ça, c'est...
Non, mais
c'est une mentalité je comprends que ce soit fort.
Si, quand tu vois Retafe qui fait un nul au Real ou au Barça, les mecs, c'est juste comme ça.
Ils font nul à domicile, je crois pas.
Ils le font.
À domicile, non, mais à l'extérieur.
À l'extérieur, oui.
C'est possible. Mais après, il y a aussi ce que tu as fait.
À domicile, je sais pas. Hein,
non, juste sur l'oreille, parce que moi, l'oreille se plante ce soir, à mon avis, sur deux trucs. Il met titulaire quand même Zoé et Fofana. C'est des mecs qui ont 10 matchs de Ligue 1 à eux deux contre le PSG. Alors que tu as Sissoko sur le banc. Qu'il y en a un peu plus et qui pèse physiquement. T'as Motiba qui est quand même le mec principal en attaque.
Gilbert,
que tu peux mettre à la place de Zoé. Tu peux tenter d'aller vers l'avant avec ces gars-là.
On peut mettre l'individualité. Ça, c'est ses choix.
Il a globalement fait des bons choix depuis le début de la saison. Oui, là, non, ce soir, à mon avis.
Excuse-moi, c'est pas régalade à chaque fois, Strasbourg, quand tu les vois.
Ah, là, Strasbourg, pas il y a des phases bien sûr. Collectives
qui sont excellentes. Oui, c'est vrai. Hein, bah, la preuve, regarde à Rennes, bah, où c'est le naufrage du Stade Rennais, ils y sont aussi pour quelque chose, ils font un très bon match. Mais tu t'appuies même pas de ce que t'as fait à Rennes contre le PSG, parce que tu peux être dans l'euphorie de gagner 4-1 à l'extérieur contre n'importe quelle équipe, c'est un exploit quand même, hein, surtout quand tu t'appuies.
Ou alors, il se dit, je fais l'impasse sur celui-là parce que je rejoue ce week-end contre Caen.
Il fait pas l'impasse, c'est une stratégie, comme beaucoup ont une stratégie, c'est que ce que je veux dire, c'est que essaye de mettre en difficulté le PSG en élevant ton intensité, parce que t'es obligé de faire ça pour les pousser un petit peu le PSG. Il l'a fait en première mi-temps, mais après le football c'est pas que de l'intensité, c'est aussi ce que tu veux mettre en place, que t'aides les joueurs quand ils dépassent leurs fonctions, comment ils ont quand ils récupèrent le ballon pour inquiéter le Paris Saint-Germain. Là c'est le dernier de ses soucis à l'oreille. Aujourd'hui, c'est on défend un bloc, on les fait douter, on va leur mettre des coups, on va essayer de faire le miracle en première mi-temps d'obtenir un pénalty sur un centre dévié de la main de Kerrer, et puis après on referme, et encore pire, c'est qu'à la 55e,
la vraie belle action, c'est le tir de Thomasson dans la lucarne sorti par Areola, c'est la seule vraie belle action.
82e.
Ouais, exactement. Voilà, on a Ahmed au 32-16 qui est avec nous. Ahmed, supporter parisien, bonsoir.
Bonsoir les gars, bonsoir tout le monde.
Salut Ahmed.
Ça va Ahmed?
Ça va les gars? Je vais vous dire, je suis pas énervé. L'important c'est qu'on n'ait pas de blessés. Ce match il compte pour rien. On a pris un point à l'extérieur. Bon, ça va. On les a archi-dominés. Je pense pas qu'on a été dépassé, donc je suis pas inquiet. Moi, je suis content. Il y a pas de blessés. Le match le plus important c'est Belgrade. Mmh. Donc voilà, on a fait tourner. On a appris quelque chose. Choupa-choupe, faut laisser tomber. C'est un gag. Dans l'axe, c'est un gag.
Ouais, tiens, franchement, il est pas si bidon que ça ce soir. Hein.
À gauche, il était bien, mais dans l'axe, il a pas.
Par contre, juste qu'il apprenne à sauter sans pousser le mec qui est devant lui à chaque fois qu'il veut faire une tête.
Non, mais il a plus d'habitude de jouer sur le côté.
Il a physique Boston Celtic années 70, il faut qu'il mette.
Ah oui,
il est dans la raquette.
Et t'apprends en minime.
Dans la raquette, non, mais il pousse avec le corps.
T'apprends en minime à sauter sans pousser le mec devant toi, quand même.
Il pousse avec le corps, comme dans la raquette au basket. Il est in the paint.
Mais encore une fois, moi je pense que Choupo-Moting, il peut faire mal à Strasbourg, mais il faut qu'il soit aidé. Quand tu joues avec Choupo-Moting et Cavani, comme ça a été le cas en début de match, ton milieu de terrain, c'est ce que je te disais, il doit animer le milieu, il doit, par de la percussion, à travers des courses, mais même balle au pied, créer des décalages pour qu'il y ait beaucoup de centres et que ces deux attaquants dans l'axe, qui sont imposants, Cavani et Choupo-Moting, existent. Si tu comptes que Choupo-Moting il fasse du Neymar ou du Mbappé, bah c'est sûr que là, c'est pas possible. Donc, encore une fois, le milieu de terrain, et là, Daniel, il parlait de Verratti à juste titre en première mi-temps, de Rabiot aussi, ça a été une catastrophe en première mi-temps, c'est ce qu'on disait. Ces deux joueurs-là, quand ils jouent, ils se regardent sur un rythme de sénateur à jouer à la baballe et à faire des passes à 3 mètres. Et ils n'ont jamais envie, par les courses, en gagnant les duels et puis mal au pied, de faire mal à l'adversaire. Et ben, ça donne un pari moyen.
Donc, je te pose une question. Est-ce que, si tu es à la place de Tuchel, tu ne prends pas Verratti en atelier, frappe à 18 mètres une journée?
Ouais, parce que
c'est incroyable que l'idée ne lui passe même pas. Tiens, quand tu joues au foot, quand tu commences à 5 ans, on a tous commencé à cet âge-là, jouer au foot, peu importe le niveau. Bah, on aimait, ok, faire un dribble, faire une passe, mais à un moment, on aimait taper dans le ballon. On aimait bien mettre la frappe.
Non, mais.
C'est ça qui m'a
d'ailleurs quand tu commences,
frappé,
tu joues
là.
À deux, généralement. Tu trouves un pote qui fait gardien, tu fais. Et lui, il a appris comment à jouer au foot. Il a 18 mètres dans la, mais frappe une fois dans ta vie au but,
Moi, ça m'a fait penser
à Makelele. Mais frappe quand même.
C'est Daniel.
C'était la même Makelele, il se retrouvait comme ça, il frappait jamais.
Non, mais Claude, il avait un rôle beaucoup plus défensif que Verratti.
Oui, mais il frappait jamais quand il était comme ça.
Au début de sa carrière, oui, Makelele, il est au milieu offensif.
Oui, non, mais il jouait pas, mais à part la suite.
D'ailleurs, il frappait un peu plus. Verratti, en plus, il a une formation de 10 au départ.
Non, mais
frappe dans la balle une fois, juste pour voir ce que ça fait de la frapper la balle. Tu vas pas la caresser tout le temps.
Non, mais je pense que tu veux que je te dise, quand ces joueurs-là, t'as la passe en toi, c'est vrai que t'es omnibulé. À faire le bon décalage pour que les... Non, mais c'est vrai, tu penses à ça. Après, la deuxième chose, c'est que ce soir...
Imagine, tu fais ça avec les femmes.
C'est que ce soir...
Arrête la caresse.
J'espère qu'il fait mal de temps en temps quand même, parce que faut un peu de... Faut secouer.
On
enchaîne. C'est ça. Donc,
je savais que j'allais l'emmener sur un terrain.
Ce soir, quand il se retrouve et joue à l'action, d'un moment, il emmène, grâce à l'appel de Cavani aussi, ça libère l'espace dans l'axe, il est à 18 mètres et il peut pas frapper, il veut refaire un dribble, un petit décalage, c'est qu'il se retrouve, tu regardes, depuis le début de saison, encore plus avec ce PSG-là, sous Thomas Tuchel, il se retrouve rarement là, aussi haut. il est bas, c'est beaucoup d'attaques rapides. Donc
j'en reviens à ma question. Donc, si t'es Tourelle, tu vas le voir demain matin à l'entraînement. Il fait Marco, tu sais que tu peux frapper.
Ouais.
Tu sais pas le faire, c'est un problème.
Je pense qu'il va lui dire.
On va se faire une séance tous les deux avec un adjoint là. Allez hop, vas-y, va faire des frappes à 18. J'en sais rien. À 20, allez 20, c'est peut-être trop loin pour toi. Je sais pas. Mais frappe dans le vide,
mais
merde.
Je te rejoins, mais à mon avis,
ça fout moi.
Même s'il le travaille, après sur le terrain, ça va tellement vite qu'il y pense pas.
Ahmed, un truc à rajouter?
Bah moi, Verratti, je sais pas ce que vous en pensez. Je me rappelle de période de Zlatan où il faisait des grandes passes en profondeur sur Zlatan. Depuis qu'il a sa deuxième opération des adducteurs, je me pose la question s'il a pas peur de frapper, de pousser. Parce qu'il le fait jamais. Il tente plus les passes longues et tente pas les frappes.
Ouais, il en fait quand même, hein, quand il est
passe
plus long, bas
il
sur
fait
le terrain,
un peu,
ouais,
mais c'est vrai qu'il a frappe pas quand il est fait les passes longues.
Ouais,
il fait comment on dit
c'est pas des frappes, c'est pas des passes, des transversales tendues.
Il frappe pas en dessous quoi, ça sollicite pas trop le muscle quoi.
Merci Ahmed, en tout cas, bonne soirée à toi.
Merci les gars, à mardi.
À bientôt, Ahmed. Et bah, ouais, mardi prochain avec le match face à l'Étoile Rouge. On va conclure sur ce match avec Bilal, qui est supporter de Strasbourg. Et on n'en a pas souvent des supporters de Strasbourg, puisque malheureusement, RMC n'a pas de fréquence à Strasbourg, ce qui est un scandale absolu. Salut Bilal.
Et en même temps, pourquoi toi
salut
tu fais
les gars,
rien de ça, Gilbert, c'est quand même chez toi.
C'est le CSA qui donne les fréquences, c'est pas moi, hein, si ça tenait qu'à
t'as
moi.
T'as pas des relations, CSA
Salut Bilal, ça va?
Salut Bilal.
Comment vous allez les gars?
Bah bien,
ça
et toi
va bien.
Comment ça va, Jérôme, Daniel?
Ça va, on est bien.
Bah écoute, moi aussi. Là, je suis en stade, là.
Ah,
et alors franchement, déjà, le stade de la Méno, c'est le feu.
Tout ah simplement. Bah, c'était dans les journaux ce matin, la plus belle ambiance de France.
Mm. Voilà, tout simplement. Et franchement, parlons du match. Honnêtement, il y a un truc que je veux dire, c'est que Strasbourg, j'ai un problème avec eux, c'est que mentalement, ils sont zéro. Mais là, ils commencent à tenir la baraque. Parce que généralement, Strasbourg, quand ils mènent, à la fin, ils se font rejoindre. Quand ils...
Ah bah là, tout le monde s'attendait à ce que le PSG gagne, hein, ça c'est sûr.
Exactement, exactement. Mais nous, on avait le souvenir de l'année dernière. Hein. C'était presque à la même époque. C'était quasi jour pour jour. Et franchement, je suis fier de ce qu'ils ont fait. Ils sont battus avec leurs armes. Et bon, je voulais juste revenir par rapport aux jeunes, là, qui ont moins de 10 matchs, là, qui sont rentrés jouer.
Ouais, Fofana, Zoé.
Exactement. Franchement... Je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que c'est des joueurs qui ont de l'intensité, qui sont vifs et que.
Ouais, mais si tu veux jouer un peu, aller vers l'avant, Bilal, il faut mettre des mecs qui pèsent un peu plus. Motiba, c'est ton meilleur attaquant, mets-moi le d'entrée. Sissoko, ben, depuis le début de la saison, c'est une sorte de je vais peut-être vous faire hurler, mais de mini Vieira, en quelque sorte. Tu vois? Ben, mets-le.
Franchement, Sissoko, fallait le faire rentrer, mais les deux, il fallait de la vivacité un peu pour les bouger. Parce que sinon, ils s'endorment. Parce qu'on ne fallait pas, parce que voilà, deuxième mi-temps, voilà, on s'est vraiment recroquevillé vers nous, on est resté dans notre surface de réparation. Et ça, c'est... Franchement, ça a été éclaté, j'ai trouvé ça vraiment éclaté. Mais bon, franchement, je suis fier de ce qu'ils ont fait. Ils sont battus avec leurs armes. À la fin, on a marqué. J'étais là, j'étais dans le club, c'était devant moi. On a vu le but, on a bougé, on était chaud. L'arbitre, normal, ouais, c'est bon, coup hors-jeu.
Bah
mais franchement, les gars, vous avez vu le match.
Non, mais il y avait un petit hors-jeu, hein, Villel. T'as pas vu l'image?
Il y avait un petit hors-jeu quand même.
Ouais, il y avait un petit hors-jeu. Pas de beaucoup, mais il y avait un petit hors-jeu.
C'était à 10 mètres de moi, j'ai pas vu. Mais passons, franchement, je suis fier d'eux. Et par rapport à l'année dernière, ils s'améliorent. Thierry Loré, franchement, il fait du beau job. Le staff aussi font un bon job. Et franchement, faut que Strasbourg, il continue comme ça. Et voilà.
Ah non, mais après, attends, ce soir, on peut trouver, effectivement, oui. Mais Strasbourg, c'est une des plus belles histoires de la Ligue 1 sur depuis qu'ils sont remontés,
Daniel,
hein.
Les
mecs, ils sont 9e du classement, l'ambiance est formidable, la plupart du temps, Strasbourg, à chaque fois, c'est généreux, c'est un bon état d'esprit, c'est un club qui, tout ce qu'il dégage est positif et sain, je crois que, Strasbourg, c'est le club, si je dois faire le top 3 des clubs que j'ai le moins envie de critiquer dans cette Ligue 1, je pense qu'il est dans ce top 3 là, quoi.
Voilà. Non, mais
peut-être même dans le top 2.
Non, mais t'as raison, mais après, le truc, c'est que, au bout d'un moment, moi, je te rejoins sur tout ça, et moi, je suis le premier à défendre parce que, déjà, j'en ai fait des matchs à la Méno. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière. Encore ce soir, ce qui me dérange, c'est que le spectacle il est plus dans les tribunes que sur le terrain, et que sur ce match-là, il y a l'état d'esprit, il y a l'envie d'aller faire mal à l'adversaire, et ils doivent passer un cap. Si Strasbourg veut s'installer durablement dans la première partie, ils devront passer un cap de ce côté-là. Et ces matchs-là te servent à ça, mine de rien.
Vous savez quoi, les gars ? Vous venez de sauver votre place dans l'after. Bravo.
Quoi ? pas compris.
Ah, parce c'est qu'on a grave. Dit, on a parlé en bien de Strasbourg.
Oh, c'est une blague. Bilal, merci en tout cas.
Merci à vous.
Et comment
gars.
T'écoutes l'after à Strasbourg, toi?
Franchement, je suis obligé de me taper l'application.
Mais qu'est-ce que il n'y a pas RMC à Strasbourg.
Elle est très bien, cette appli.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas RMC.
Bah, on peut écouter sur l'appli, sur le satellite.
Quand t'es en voiture avec le chauffage, non, laisse tomber. Et en plus, maintenant, quand ils t'attrapent avec les écouteurs, ils t'enlèvent 3 points.
Ah oui, c'est vrai.
Bah, ouais. Faut... bah tu leur dis que tu m'écoutes, que t'es en train de m'écouter, je pense qu'ils vont te lâcher.
Tu veux dire que dans les... tu veux dire
salut
que...
Bilal.
Non, mais c'est vrai, ça marche.
Tu t'y connais dans ces choses-là, tu veux dire que dans les calculs d'audience, on ne demande pas dans les régions où nous n'avons pas d'antenne aux gens s'ils nous écoutent. Donc on ne prend pas en compte les autres façons d'écouter, genre comme celle-là.
Ah, mais il y a des autres mesures pour les podcasts notamment. Et tu sais que l'After est le troisième podcast de France.
Je te parle là comme Bilal ce soir.
Bah Bilal en tout cas.
Tout est à revoir, tout est à revoir.
Bilal écoute RMC à Strasbourg et c'est bien l'essentiel. Bravo Bilal.
Bravo Bilal.
Allez, dans quelques instants on est de retour pour parler des autres matchs et notamment de Nantes qui bat Marseille et nos 3-2 et notamment de Rennes qui gagne à Lyon 2-0. L'after est là jusqu'à minuit bien sûr, vous connaissez les résultats. L'after continue, supporters Nantes et Marseillais, c'est votre tour. Appelez-nous au 32-16 tout de suite et n'oubliez pas le grand jeu de Noël. On a plein de cadeaux encore ce soir, vous envoyez Noël par SMS au 732-16 tout de suite.
RMC Football Show. L'After Foot, Gilbert Bribois.
Jérôme Montanel, Daniel Riolo, bien sûr, c'est l'After jusqu'à minuit. On a eu plein de matchs ce soir, hein. Vous connaissez les résultats, vous savez que le grand jeu de Noël continue. Noël par SMS au 732-16, profitez-en, les cadeaux vont tomber tout à l'heure. Je vous propose de parler maintenant de Nantes-Marseille. On voulait parler un peu de Vahid et de son boulot, mais aussi de l'OM. L'OM, troisième pire défense de Ligue 1. 25 buts encaissés.
Je donne quand même cette stat. Parce que dans cette stat, il faut quand même que tu enlèves des matchs. Rudy Garcia, il faut toujours enlever des matchs pour les stats.
Ah, mais là, oui, là, tu fais ton Rudy Garcia, là.
Non, mais retire les.
Déjà,
les,
enlève les... le match à Nantes, s'ils en ont pris 3, ça compte pas quand t'en prends 3.
Ah bon?
Non, mais tu retires le match contre Paris, contre Lyon et contre Nantes, parce que c'est des équipes qui jouent le haut du tableau. Et
t'enlèves le match à Nîmes parce que c'était en début de saison, et là, bon.
Et là, oui, tu retombes et.
T'es quoi, t'arrives à 20, alors?
Tes calculs, c'est.
Je viens.
Tu peux pas faire des calculs comme ça, Gilbert. Je suis désolé. Il faut savoir lire les stats.
Bon, très bien. Bon, du coup, je sais plus trop.
Coup, ils en ont encore pris 3. Il n'y a pas que le fait de prendre des buts.
On va commencer peut-être à penser qu'il y a un problème quand même à Marseille. Que. Je vais continuer parce que je le dis. Je vais finir par me tromper que. Il y a mieux à faire avec cette équipe-là que les matchs qu'on voit en ce moment et cette cinquième place. Je vais continuer à le croire qu'à un moment, et notamment dans la deuxième partie de saison, une fois que l'hiver sera passé, cette équipe a les moyens de se redresser pour aller finir sur le podium. Mais il faut pas non plus continuer à perdre trop de terrain. J'ai le sentiment, plus je regarde cette équipe, qu'il y a un paquet de joueurs qui sont vraiment usés. Une équipe qui a beaucoup donné mentalement l'année dernière, dans une saison qui leur a pompé une énergie mentale importante, qu'ils ont du mal à repartir. Les joueurs qui sont usés, c'est Luis Gustavo, c'est Payet, enfin c'est énormément de joueurs, en tout cas. La défense centrale, Mandanda, ça fait trop. Il faut absolument que ces mecs-là se relancent, sinon le podium qui a l'air si évident, il va l'être de moins en moins, quoi. Vraiment là, parce que ce moment ça va pas du tout.
Non.
Et Garcia ne trouve aucune solution, à part gueuler, parce que visiblement en ce moment il gueule tous les jours. Il n'a aucune solution.
Non, il y a pas.
On va l'écouter dans quelques instants. Vas-y, Jérôme.
Qu'est-ce que j'avais pas entendu en début de saison quand il faisait jouer Luis Gustavo derrière et qu'on disait, vous imaginez, il faut le faire jouer au milieu, que l'association avec Strootman ça va être magnifique.
Il a fait quelques matchs pourris aussi derrière.
Que moi j'étais. Et là, j'ai toujours tenu le même discours. Alors après, je te dis pas que je suis j'ai la science infuse et je sens tout. Des fois, je peux me tromper, mais moi, je connaissais le style Strootman aussi, hein, pour avoir commenté plusieurs fois des matchs de Strootman pour me rendre compte de son niveau, qui est un très bon joueur, mais pas le joueur leader phare comme on a voulu nous le présenter à Marseille, et que certains sont tombés les deux pieds dedans, et que pour moi Luis Gustavo et Strootman encore plus à ce rythme-là, ce n'est pas possible, même contre une équipe comme Nantes qui a des faiblesses mais qui met de l'engagement, qui a un style de jeu, Vahid, il a apporté ça, on va en parler tout à l'heure, et c'est trop court, ils y arrivent pas, et encore plus sur un match à l'extérieur.
Moi, je vais te dire, moi, je suis tombé les deux pieds dedans, je vais t'expliquer pourquoi. Strootman, c'est un joueur que j'ai beaucoup suivi, qui était un joueur, au début, bombe atomique, vraiment. que ces deux blessures ont foutu en l'air, complètement. Quand il est revenu, et notamment la saison dernière, j'ai entendu à Rome, les mecs étaient contents de ce qu'ils faisaient. Et je me suis laissé vachement leurrer par les matchs de Ligue des Champions, où visiblement, et notamment celui contre le Barça, où là, il avait été très très bon. Et où, bon, peut-être ponctuellement, il avait élevé son niveau pour, en gros, je ne sais se mettre dans le rouge.
Ces joueurs-là sont capables de ça.
Voilà. Mais effectivement, sur la saison, au final, si la Roma l'a laissé partir de cette façon, quand ensuite on m'a expliqué comment ça s'est fait, je me suis aperçu que je m'étais planté. Je me suis dit, si la Roma le laisse partir de cette façon, si Rudy Garcia, qui voulait Balotelli, n'a pas pu faire Balotelli, a mis la pression sur ses dirigeants en disant, bon, mais maintenant, vous me trouvez quelqu'un, je veux Strootman, que je connais de la Roma, il a poussé, il a forcé pour prendre Strootman, qu'il a réussi à l'avoir comme ça, qu'il lui a filé le plus gros salaire du club, que c'est en train de foutre la merde à Marseille.
Bien sûr.
Clairement, moi, j'ai fou, comme tu dis, moi, j'ai foutu les deux pieds dans la merde, j'ai cru que il pourrait y arriver et tout. Or, clairement, il est cramé. Il ne peut pas, parce que cette blessure-là, il ne s'en remettra jamais, parce qu'il y en a eu deux, parce que c'est trop dur. Ponctuellement, il pourra peut-être être
non,
bon.
Non, mais bien sûr,
d'ailleurs, s'il était revenu, machin, même avec les Pays-Bas, il aurait peut-être donné.
Mais
la page a été complètement tournée aussi de ce côté. La Roma, ils étaient contents. Quand tu parles à des Romains, ils sont pas mécontents de s'en être débarrassés.
Mais donc ça montre.
Jérôme, on fait donner coup de Garcia.
On met cette stratégie-là. C'est encore une erreur dans le recrutement.
Bah, c'est encore un panic buying.
Encore une erreur
avec Costas.
Rappelle-toi ce que. Et moi, j'ai ça en tête. Et c'est normal. C'est le garant du collectif, de l'ambiance collective. Et c'est pour ça que Marseille a fait une très belle saison l'année dernière. Parce que les joueurs, ils se tiraient pas dans les pattes. Parce qu'ils fonçaient tous dans le même objectif. Et ils sont allés arracher une finale d'Europa League. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même une finale d'Europa League avec cet état d'esprit-là. Il voulait faire attention aux joueurs qu'il recrutait. Voilà. Là, Daniel, il a mis le doigt là où ça fait mal. C'est que tu ramènes Strootman, entre autres, mais d'autres aussi, hein. Le Croate qui est arrivé.
Oui, Radonjić qui est allé
Radonjić.
Oui, là, pour l'instant, tout ça, c'est fiasco.
Tout ça, ce que je veux dire, il t'apporte dans le groupe. Les mecs sont pas bien parce qu'ils sont pas bons.
Ça peut pas relever ceux qui sont cramés.
Exactement. Et le problème, c'est qu'après, tu sais, dans un vestiaire, c'est toujours pareil. T'as des statuts. Strootman, tu lui as donné le plus beau statut, t'es le plus gros salaire. Donc les joueurs, ils regardent comme ça aujourd'hui. Et que les joueurs qui font des différences, comme Thauvin, comme Payet, ils sont pas à plaindre, hein, attention. Hein, mais
Payet, il fait encore des différences.
Attends, ces deux joueurs-là, ils t'ont fait gagner des matchs à Marseille, ils t'ont sauvé souvent. Plus Thauvin que Payet.
Cette année, mais le problème, c'est que t'as pas grand monde qui peut. T'en as pas un qui peut gueuler sur les autres parce que tous ont déjà un problème avec eux-mêmes.
Ils ont
tous un problème déjà dans leur situation perso.
Je comprends.
Mais... Payet, il va pas dire à un autre parce qu'on va lui répondre. Hey, toi, tu vois que t'es pas comme l'année dernière. Mais... L'autre, il va lui dire. Luis Gustavo, il va gueuler. On va lui dire. Hey, toi, grand. Toi non plus, tu arrives pas.
Daniel,
c'est difficile.
Quand t'as pas les résultats et que quand tu te sens comme ça, les joueurs offensifs, parce que j'ai été.
On les garde en avance.
Aussi. Ouais, mais juste pour finir, Payet, il va pas te le dire ouvertement, comme Thauvin va pas te le dire, mais eux. Ils se disent, ils ont pris Strootman, ils lui ont donné le meilleur salaire. Et ils nous ont dit, on peut pas trouver, on a ce qu'il faut devant, les attaquants, mais qui fait gagner les matchs? Thauvin, il t'en fait gagner parce
qu'il
marque
des buts.
C'est
pour ça que Garcia a ensuite axé sa communication on n'a pas besoin d'attaquants parce qu'on a mis tant de buts, machin. Parce qu'en fait, il a tellement poussé pour avoir Strootman. Il voit aujourd'hui que ça colle pas, donc il te refait le couplet dont on n'avait pas besoin d'attaquants.
L'ambiance, elle n'existe plus.
Il ne faut pas que les supporters de l'OM ne comprennent pas ce qui s'est vraiment passé.
Rudy Garcia, on l'écoute et ensuite on accueille Jean, supporter marseillais au 32.
Ouais, ouais.
Après le match, hein, Rudy Garcia, bien sûr.
Je pense qu'on est les rois de la stupidité, au vu des autres résultats, mais on regarde les autres, on regarde soi-même. Et quand on n'est pas capable de gagner un match comme celui-là, je pense qu'on a bafoué les fondamentaux et on n'est pas loin d'avoir la panne de la stupidité. Voilà, je ne peux pas en dire plus.
Bon, le son n'était pas très bon, mais enfin, on a compris l'essentiel.
On a mené deux fois et on n'a pas gagné.
Jean est avec nous au 32-16, supporter marseillais. Salut Jean.
Bon, salut les amis, mais c'est réservé à Daniel, ça. Donc, je vais pas dire ça. Je vois une tisane là actuellement, mais ça me calme pas.
J'avais oublié le coup de la tisane.
J'essaye, Daniel, mais bon, c'est vrai que ça fait du bien. Mais bon, heureusement que RMC Sport a diffusé pour me réconcilier, pour me régaler, pour oublier ce Manchester Arsenal où je me suis régalé.
Je t'avoue que j'avais les deux télés, mes yeux allaient beaucoup sur ce match.
Comment ça, t'as pas regardé Strasbourg, Jean? Mais tu te moques du monde, t'as pas regardé Strasbourg?
Si, j'ai regardé sur la tablette. J'avais sur la tablette.
Bien joué.
PSG, et j'avais, ben, je m'organise comme ça en Ligue des Champions, hein, quand je regarde un match sur la grande télé, puis j'ai la tablette pour regarder un
petit peu. Ah, on fait toujours la même chose, mon vieux.
Joli.
Et ouais, ouais. Non, mais voilà, donc quand on aime le ballon, c'est un petit peu comme ça. Oui, non, mais je pense que, alors, déjà, ça me fait énormément plaisir de vous avoir à tous les trois parce que je vous écoute régulièrement, même en podcast, quand je peux pas vous écouter.
Et, merci, Jean.
Et moi, je trouve que Daniel, tu tapes chaque fois dans le mille quand ce qui concerne l'OM, quand Payet est arrivé. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait une intervention dans l'after avec Jonathan, c'était vendredi, où le sujet, c'était est-ce qu'il faut relativiser la défaite à Francfort? Moi, je ne décollerai pas parce que les lacunes que j'ai vues, même avec l'équipe bis, je voyais les mêmes avec les titulaires. Je les ai vues à Montpellier, je les ai vues à Lille. À Montpellier, j'y étais en plus à la Mosson. J'ai vu cette équipe de l'OM, il n'y a plus rien. Ils tentent des trucs, comme tu le dis, Daniel. Ils veulent faire de la mode. Ils veulent jouer à défense à 3. Cette défense, elle est paumée. On voit le petit Camara sur le troisième but. On ne lui parle pas. C'est catastrophique. Et je pense qu'aujourd'hui, Rudy Garcia, il est dans le triangle des Bermudes. Il est à bord du bateau. Il a la boussole qui part dans tous les sens.
Dimanche soir, ils vont à Saint-Etienne, l'OM.
Non mais là c'est la 11e défaite de la saison qui se profile à fond de la caisse. Il faut être réaliste. Alors c'est vrai qu'en football on peut avoir des surprises, mais on ne peut pas avec une défense aussi cataclysmique, parce que c'est grave. C'est même pas des, tu perds un 0, c'est des torgnoles à chaque fois. C'est des torgnoles, on comprend. Et aujourd'hui je pense que Rudy Garcia, et vous l'avez souligné avec Strootman, je pense que Strootman, vous parliez de Gustavo, je pense que fait très mal à Gustavo, qu'on le veuille ou non, au milieu de terrain. Je pense qu'il l'inhibe. C'est malheureux ce que je vais vous dire. Hein. C'est affreux ce que je vais dire là. Mais vous rendez compte, j'ai l'impression que Zambo, pourtant, qu'est-ce qu'il avait les pieds carrés, il a porté plus au milieu de l'OM que Strootman, il a porté cette année. Pourtant, il n'y a pas photo entre les deux.
Et là, le calendrier, t'enchaînes Saint-Etienne, après tu reçois Bordeaux.
Bah, je suis pas sûr que Bordeaux gagne au Vélodrome. Hein. Je te le dis, Daniel. Hein. Moi, je te le dis parti comme elle est partie. Je suis sûr que Bordeaux, si on partage les points, c'est pas possible. Quand tu te rends compte qu'il dit quand même hier dans la conférence de presse d'avant match, qu'il dit qu'on a progressé parce que dans les trois derniers matchs, on a encaissé qu'un but. Oh, c'est Dijon, ouais, Amiens, exactement, et Reims où tu gagnes pas. C'est du foutage de gueule. Moi, comme tu l'as dit, Daniel, et que même Jérôme, je crois, le disait, qu'il arrête de se foutre de notre gueule en conférence de presse. Je sais bien qu'on n'a pas les diplômes d'entraîneur que lui là. Bon, moi j'ai juste éducateur fédéral 1, ça suffit.
Jérôme, il en a un. T'as un début de diplôme, Jérôme.
Jérôme, il peut, c'est bon. Ouais, mais comment on quand même on regarde les matchs, on voit ce qui se passe sur le terrain, on voit que cette équipe est perdue, on voit que cette équipe n'a aucune réaction. Alors c'est dommage, ce soir il y a eu quelques trucs sympas, le premier but est beau et bien amené avec ce centre en retrait de Campos,
ouais, ouais,
et le but de
Ouais, c'est vrai, c'est un beau mouvement. Ouais.
C'est un très joli mouvement, mais après si cette attaque ce soir elle voulait fonctionner, comment tu veux fonctionner avec une défense?
Non, tu sais ce qui était le pire, Jean, tu dois me dire si t'es d'accord, comme t'es supporter de l'OM, donc t'es là, tu les regardes, donc t'as tes sensations de supporter comme ça. Moi, quand le match a démarré,
ouais,
à Nantes, sachant que Nantes venait d'en prendre une belle, qu'ils avaient besoin de réagir et qu'on sait que depuis que Vaïd est là, il y a un nouvel état d'esprit, il y avait une belle ambiance à la Bougeoire, t'as pas senti que ça serait très compliqué pour l'OM dès le début, dans l'esprit, comme ça, instinctivement, que ça puait la défaite, même alors, quand vous avez marqué.
Oui, alors
j'ai senti très vite que ça allait être dur, ce match pour l'OM.
Dans cette semaine qui nous attend, moi, si tu veux, après les trois matchs qu'on a passés, après la défaite à Montpellier, je parle à Ligue 1, j'avais dit Garcia risque de s'en sortir parce que il risque de faire un 9 sur 9 avec Dijon, Amiens et Reims. En définitive, on a fait 7 sur 9. Mais là, avec le calendrier qui nous attendait, j'ai prédit un point, moi, sur les deux matchs. Et le point que je prédisais, éventuellement, c'était ce soir. Mais comme tu dis, même quand on a ouvert la marque, j'ai trouvé que, mais dès qu'on a pris le derrière, qu'on prend en plus l'erreur défensive, ça là, il se retrouve, mais je veux dire, il a le temps d'aller boire un café, de revenir et puis de déposer le ballon sur la tête. Ils sont ramis. C'est là que tu vois que la défense, elle fonctionne pas. C'est pas possible. Là, je me suis dit, ils égalisent, c'est fini. Mais même, comme tu dis, l'ambiance, de toute façon, Rudy Garcia, si tu me fais son bilan, dès qu'il a une équipe qui est équivalente la sienne, ou qui est légèrement supérieure, je ne parle pas du Paris Saint-Germain, hein, je parle où, eh ben ça y est, il gagne pas, il n'y arrive pas.
Et ce qui faisait la différence, l'année dernière, exactement, sur certains matchs, c'était l'état d'esprit. Parce que les mecs, ils se bougeaient, et c'est pour ça qu'ils prenaient moins de buts, ils en prenaient, hein, mais ils en prenaient beaucoup moins. Et qu'aujourd'hui, sans cet état d'esprit, que Strootman t'a un petit peu cassé là dans le rythme du groupe, et ben aujourd'hui c'est chacun un petit peu pour sa gueule et tout le monde se rejette la faute et là ils se regardent dans le vestiaire et j'imagine là après une défaite comme ça,
ils peuvent se relancer en battant Limassol.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fou de voir une équipe marseillaise. Et aujourd'hui, Marseille, comme tu disais, même en étant comme ça, ils sont encore capables de finir sur le podium parce que les autres à côté, là, on peut parler de Lyon, des autres, là, Monaco, j'en parle même pas, bah, ils dégringolent aussi. Donc,
il y a un problème, je reviens là-dessus, je conclue sur
la même. Après, on parle de Vaïd parce qu'il y a encore plein de choses à faire là.
Il y a un problème qui est fondamental. Quand comment il s'appelle, Hérault est arrivé à l'OM, il avait dit que les rôles seraient bien définis et que il y aurait pas d'entraîneur qui ferait le recrutement, le machin, tout ça. Rudy Garcia, petit à petit, s'est octroyé les pleins pouvoirs dans ce club.
Bah oui.
Et ça sera toujours un problème dans un club. Chacun doit être à sa place. Zubizarreta ne sert à rien du tout. C'est Garcia qui gère tout et notamment le recrutement. C'est lui qui a fait certains choix. C'est lui qui a fait les deux années qu'ils se sont retrouvés en panique d'achat fin août et qu'à chaque fois, ça s'est mal passé. La saison dernière a tellement été,
surprenante
et pleine d'émotions pour l'OM que ça a encore plus donné un chèque en blanc à Garcia. Et que Hérault lui a dit, écoute, on a notre homme, on va faire en sorte. Et lui-même, c'est effacé. McCourt n'existe pas. Hérault, bon, bah, il est en train de se transformer en vitre. Et Zubizarreta, lui, c'est le gars sympa qui vient regarder l'entraînement.
Allez, on enchaîne, les gars.
Et ça, les pleins pouvoirs à Garcia, erreur fatale.
Vaïd, tu voulais parler de Vaïd, Jérôme, c'est le moment.
Ah ben non, moi, je voulais te parler de Vaïd parce que souvent, c'est vrai, dans ses méthodes et tout ça, bon, nous, on a apporté.
Oui, on a tendance à le singer régulièrement.
Il nous en veut. Mais bon, peu importe. Il est
non, pas, moi, hein, moi je me moque pas de lui.
Cacahuète.
Non, pas moi.
Non, c'est pas
moi, il m'en veut pas. Moi, je me moque pas de lui.
Non, mais pourquoi? C'est pas une question.
Je rigole de tes blagues. Voilà. Mais je ne me moque pas de lui, moi.
Après, il faut reconnaître une chose, et ça, c'est moi, j'avais dit que c'était un entraîneur qui basait beaucoup, et encore, hein, c'est le cas, sur l'état d'esprit, sur la combativité, sur gagner les duels. C'est souvent son état d'esprit. Quand il prépare les matchs, il les prépare comme ça, de la sorte, et il doit continuer là-dessus. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il arrive à mettre des bons joueurs de football sur le terrain. Moi, je vois le milieu de terrain de Nantes
mais
aujourd'hui.
Ce qu'il disait avec l'Algérie, c'était bien quand même. L'équipe, ouais, elle jouait quand même.
L'Algérie, t'avais pas trop le choix, Daniel. L'Algérie, en Algérie, il y a toujours eu des super joueurs de ballon.
Non, qui étaient des joueurs de ballon, mais la façon
après, dont. Après, c'est les structurer, les mettre entre eux.
Moi, je trouve qu'il arrivait à les faire bien jouer.
Là, à Nantes, dans l'état où était Nantes, quand il l'a pris, Nantes, même si l'entraîneur essayait de mettre des trucs en place et puis il n'a pas eu le temps, combien d'entraîneurs de Ligue 1, qui ont fait leur carrière en Ligue 1, comme Vaïd, comme d'autres, seraient arrivés en disant, oh là là, là, on va fermer la boutique, on va mettre des joueurs très physiques.
D'ailleurs, on s'attendait à ce qu'il fasse ça. Et il l'a pas du tout fait.
Et il le fait pas. Et c'est pour ça que je voulais mettre ça en avant, parce que franchement, à chaque fois, alors là, il y a eu des petites piqûres de rappel, ils ont pris des claques, notamment ce week-end. Donc là, ça lui a resté
sinon, au travers
de la gorge.
Bien passé.
Mais
à partir
sinon,
du week-end, hein.
Franchement, il a remonté le club assez vite. Ça le sert dans son travail pour essayer de mettre des choses en place dans le jeu. Mais moi, j'ai adoré les prises de risque, les premières relances du gardien.
Ouais.
Même quand il mène, où tu peux te dire, bah, écoute, le gardien, il gagne du temps, il va balancer. Non, il relance court et après,
et à
ça
la
bouge,
fin, quand il mène et qu'il reste du temps et qu'il y a beaucoup de temps additionnel et tout ça, il se met pas devant la surface. Il ne défend pas le cul par terre dans la surface. Il continue d'essayer de monter, de presser haut. C'est intéressant.
Et ce troisième but, c'est régal. Alors, il y a une erreur de Sarr, mais voilà, le débordement, le centre.
Là, en ce moment, niveau boulette, il est comment là?
Il est pas mal. Hein.
Ouais, l'ex meilleur arrière droit qui devait finir en équipe de France.
Il n'est pas le seul. Donc non, bravo à Vaïd et il sera content d'entendre ça.
Dans quelques instants, Lyon-Rennes au programme, les gars, et n'oubliez pas que le grand jeu de Noël continue jusqu'à midi. Donc envoyez Noël au 732-16 par SMS, vous avez encore vos chances. À tout de suite dans l'after pour évoquer la défaite de Lyon et la victoire de Rennes.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à midi, on est là, Jérôme Rotten, Daniel Riolo, bien sûr. Tiens, je vous propose d'écouter, avant qu'on parle de Lyon-Rennes dans le détail, d'écouter Jean-Michel Aulas. Ah. Alors, vous savez que Lyon ne jouera pas ce week-end. Le prochain match, donc, désormais, c'est le match en Ukraine, à Kiev, c'est confirmé, face au Shakhtar. Aulas, qui vient
au stade du Dynamo, le stade
olympique
Kiev,
de...
Le stade de Kiev, quoi.
Attends, parce qu'il y a deux stades à Kiev.
C'est pas le stade olympique, celui où joue le Dynamo, c'est le stade où il n'y a pas la piste, le beau stade où l'équipe de France.
C'est pas le stade du Dynamo.
Là, c'est au stade olympique que ça va se
faire. Il y a la piste.
Bah, je crois que c'est celui-là.
Ouais, c'est pas le stade du Dynamo.
Je vais regarder.
Bon, bref. En tout cas, écoutez Jean-Michel Aulas, après la défaite de Lyon 2-0 face à Rennes.
On pensait partir à Donetsk, qui sera Kiev, pour le match avec le plein de confiance, puisqu'on n'aura pas la possibilité de jouer le match de samedi à Toulouse, qui a été annulé. Et donc, voilà, il va falloir faire un travail interne, un peu comme on l'avait fait ces dernières années, après des échecs cuisants à domicile. Le dernier en date étant celui de Moscou, qui avait précédé Marseille. Donc on va essayer de remettre les choses en perspective pour ce match contre Donetsk, qui est un match considérable en termes d'enjeux, d'image et puis de conséquences économiques pour le club.
Non, il y en a, celui que je dis, c'est celui, le classique, celui avec les fauteuils jaunes et bleus, là. C'est là où ils vont jouer le stade olympique, ouais, voilà. Celui qu'on connaît.
N'empêche que là, ça craint quand même, non? Ce qui se passe à Lyon, parce que tu jouais contre une équipe de Rennes qui était en perdition. Il y a encore quelques jours de ça. Et moi, j'écoutais attentivement Edouard G, parce que bon, c'est difficile de voir tous les matchs. Je sais pas si vous avez regardé attentivement vous le Lyon-Rennes, mais quand il y a six matchs en même temps.
Il y a Marseille et Lyon que j'ai été prioritaire là-dessus, quoi.
Bon, et alors votre analyse?
Mon analyse, c'est.
Mais pourquoi tu dis ça craint?
Ça craint de perdre contre Rennes 2-0 chez toi.
Non, mais avant le Shakhtar, tu fais le lien entre les deux.
Ça craint tout court. Je veux dire, t'es Lyon, tu es là pour jouer au podium. Normalement, tu es censé être deuxième.
Non, mais je pensais que tu faisais le lien, puisqu'on vient d'entendre là sur le Shakhtar. Je pensais que tu faisais le lien,
avec le match de la semaine prochaine.
Non, parce qu'en vue du Shakhtar, franchement, Lyon, cette année, ils ont tellement été déjà dans le même match, à passer du blanc au noir, que d'une semaine à l'autre, ils peuvent très bien, ça ne peut pas les empêcher de faire le résultat au Shakhtar.
C'est quand même une semaine où tu camberges, tu as fait une mauvaise prestation.
Moi, c'est pas ça qui m'inquiète tant pour Lyon. Ils sont capables de faire, regarde, avant City, les deux fois, ils étaient pas bons, et puis après, ils font les bons matchs.
Je veux dire, ce qui fait le charme du haut niveau dans le foot.
Il récupère Dombélé parce que j'ai vu qu'il était un peu blessé et tout. On a eu des nouvelles là-dessus?
Non, pas de news.
En revanche, s'ils perdaient des joueurs comme ça, là, je serais plus inquiet déjà.
Non, mais après, bien sûr que c'est inquiétant en termes de résultats. Gilbert, encore une fois, ils perdent des points bêtement. Le problème, c'est que, du moins, l'avantage qu'ils ont aussi Lyon, c'est que il n'y a pas une deuxième ou troisième équipe après le PSG qui arrive à avoir un nombre de points conséquent.
En termes comptables, la défaite contre Rennes, mine de rien,
ils sont qu'à deux points. T'imagines que Lyon,
avec
les mauvaises prestations et mauvais résultats, encore plus à domicile parce qu'ils perdent des points de plus en plus, ils sont qu'à deux points de Lille qui est deuxième.
Mais oui.
Donc ils sont pas largués du tout.
Non.
On a vu qu'ils pouvaient être à la hauteur de Lille parce que on en a parlé hier. Ils pouvaient s'imposer à Lille le dernier match de championnat.
Oui, sur le match de Lille, ils sont au-dessus. Hein.
Donc moi je suis pas inquiet sur l'ensemble de la saison. Je suis plus inquiet pour Marseille que pour Lyon. Mais par contre,
Lyon, le truc c'est que ça ne t'offre aucune certitude. Tu sais pas.
C'est grave. Ça quand même.
Ça c'est un problème. Mais ce sera pas un problème. Mais ce sera pas un problème pour eux dans la deuxième partie de saison pour finir sur le podium, puisque c'est leur objectif.
Parce qu'ils ont
les ressources pour le faire, les joueurs. Et puis en Ligue 1, ils sont au-dessus. Ce qui est un problème, c'est quand t'essayes d'appréhender une compétition comme la Ligue des Champions. Là, ça va que c'est le Shakhtar. Sur un match couperet, ils doivent être quand même capables d'aller faire nul là-bas. Mais si tu me dis ils vont perdre, je suis bien obligé de te dire ouais, il y a des chances qu'ils perdent aussi. Tu sais pas trop avec eux.
En revanche,
sur un aller-retour en huitième, ils vont avoir du mal, ça c'est clair.
Et souvent, dans ce rôle-là, moi, je mets en avant la qualité de management. Alors, on parle souvent de la qualité de.
Qualité de management, il y a un problème là-dessus. Évidemment qu'il y a un problème.
Et à juste titre, quand tu fais des bons matchs. Alors moi, je mets plus en retrait les exploits à City, quand ils font des gros matchs de championnat et tout ça, où c'est plus facile pour les joueurs
de
trouver la motivation et d'aller au bout.
Tout le monde continue de défendre énormément Genesio, mais encore une fois, nous, c'est pas pour l'enfoncer. Mais clairement, si t'as une telle irrégularité, si t'as des hauts et des bas pareils, si t'as, on fait un bon match contre City, on fait un mauvais match là, on mène 2-0, on se fait reprendre 2-2, on est mené 2-0, on revient à 2-2 parce que j'ai gueulé à la mi-temps, qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas un problème de management.
Et puis,
évidemment qu'il y a un problème.
Et puis, il y a le côté tactique. Alors moi, je veux bien, t'as essayé ce 3 derrière depuis quelques journées, quelques matchs de, Non, mais c'est oui, c'est à la mode. Sauf que tu joues.
Comme la parka qu'il faut avoir ou la veste, hein. C'est...
Tu joues aujourd'hui. Tu joues aujourd'hui Rennes. C'est pas bien, même si il change de. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir quatre joueurs offensifs sur le terrain, de mettre un Dembélé qui marque des buts en plus en ce moment. Donc, mets-le devant et repasse à quatre derrière. T'as pas besoin d'avoir trois défenseurs centraux, que sont Marcelo, Neuer et Morel. Que après, t'es obligé de changer. Tu sors Morel pour changer de système. T'as un milieu de terrain qui est très joueur, pas de problème, mais est-ce que quand tu joues comme ça au bout d'un moment et que t'es pas dans le bon état d'esprit pour récupérer le ballon et que tu permets aux Rennais de ressortir, et après les Rennais, ben attends, c'est comme beaucoup d'équipes de Ligue 1, ils ont dans leur collectif des joueurs qui peuvent faire la différence. Tout le monde a rigolé sur l'état de forme d'Atem Ben Arfa. Mais moi franchement, quand je l'ai vu aujourd'hui, alors je pense qu'il y avait un problème de forme. Et peut-être un problème avec Sabri Lamouchi, très certainement, je l'ai senti comme ça, t'as l'impression que c'est une libération pour lui d'avoir changé d'entraîneur, et aujourd'hui il fait un match vraiment cohérent, quoi. Donc,
on arrive au bout.
Pour les Lyonnais, ben voilà, c'est comme ça. Et franchement, s'il n'y a pas une prise de conscience du staff de ce côté-là et de Bruno Genesio en se disant, ben il faut que je me remette en question aussi, plutôt que toujours dire, ben c'est de la faute de Depay, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel, parce qu'ils sont pas sur les petits matchs bien concentrés. Et ben Lyon sera comme ça en dents de scie.
Jérôme, demain soir, vous serez là à 22h. On reparlera de la Ligue 1, notamment de Bordeaux-Saint-Etienne. Je précise que d'ailleurs Subotić, le défenseur de Saint-Etienne, va rester 2-3 jours en observation. Suite à son choc aujourd'hui, vous avez vu l'image sans doute avec Ruffier, il saignait beaucoup, observation pour Subotić. Demain, on
la
aura aussi.
Ruffier, elle est quand même pas maligne, non?
On aura aussi l'occasion de revenir sur les autres matchs, bien sûr, à 22h.
Il va quand même.
Allez, il nous reste une minute, le grand jeu de Noël.
Il a déglingué.
Messieurs, dames, salut Hicham.
Salut,
l'after. Hicham. C'est toi qui as été tiré au sort, je montre la boîte là.
Oh, tu vas trincer, Hicham.
Allez, c'est Jérôme qui va te dire que t'as gagné ce soir.
C'est cadeau, tiens, joue avec ton pied gauche, tu vas voir, hop, tiens.
Bon, alors là. J'ouvre avec mon pied gauche.
Ouais, je mets ma chaussure avec. Hein.
Alors, attention, qu'est-ce que gagne Hicham?
Attention, un skateboard électrique.
Oh! Ça, c'est quoi ça?
Mais ça, c'est génial pour se déplacer en ville.
Ah, je m'en mets, il faut savoir en faire. Hein.
Ah, oui. Skateboard électrique.
Hicham, bravo! Joyeux Noël!
Genre, tu montes dessus et.
C'est pour un salut. Gaucher, hein, par contre. Hein. C'est moi qui t'offre. Hein.
C'est le skateboard électrique de Retour vers le futur. Non, et le grand jeu de Noël revient.
Il est beau.
Demain soir dans l'after, bien sûr.
Demain, il sera encore
demain,
plus drôle.
After de 2h.
Hein. After de 2h.
Bon, donc, avec mon idée que je voulais développer, machin, tout ça, là.
On sera demain.
On en reparlera demain.
Demain, on a le temps. Et demain soir, attention, équipe type, équipe pipe du Sporting Club de Bastia. Et oui, monsieur.
Je suis
à base de Méric Ribaud, Claude Papy et.
J'ai le brassard, je peux te le dire.
Bastia, de toute façon, t'es obligé de mettre l'équipe de 78.
Mais pourquoi l'équipe de. Et nous. Bon, à part moi, tu mets.
Tu veux pas serrer le rôle.
Ouais, t'es obligé de.
On verra ça demain soir.
18,
allez, supporters Bastier, prenez rendez-vous.
Oh, quasi. Hein.
Merci pour ce soir. L'after revient demain. On sera là à 22h avec Jérôme et Daniel. Bonne nuit à tous.
RMC Football Show. L'after foot.